Dan.
C'est pas du vent.
Vostè aquí entra de Cumana, aquí diu que entra com a
C'est pas du vent.
Catène.
Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour. Sous le port, Nami, les vagues qui détruisent les ports. C'est au XVIIe siècle que des pêcheurs japonais ont inventé ce mot, tsunami, alors qu'ils reviennent au port par une journée sans tempête et qu'ils constatent les dégâts sur leur terre dévastée par les flots. Mais c'est en 2004 que le monde entier découvre, grâce aux vidéos filmées par les portables des habitants, l'ampleur de ce phénomène qui fera 230 000 victimes en Indonésie. Depuis, la science des tsunamis s'est développée et l'UNESCO a créé une journée mondiale de sensibilisation. L'Organisation des Nations Unies a organisé une conférence internationale sur le sujet cette semaine. Car si les tsunamis sont rares, ils sont extrêmement dévastateurs. Quelles sont leurs causes? Quelles sont les régions les plus menacées? Et comment s'en protéger? Nous en parlons tout de suite avec nos invités.
C'est pas du vent sur RFI.
Nous disons ça partout. Si vous êtes près de la côte et que vous sentez le moindre tremblement de terre de plus de 15 secondes, fuyez loin de la plage.
Voilà, s'il y a une chose à retenir de cette émission, c'est bien cela. Hein. Si ça tremble plus de 15 secondes quand vous êtes sur la plage, eh bien courez le plus haut possible. C'est l'avertissement du scientifique américain Kostas Sinalakis. C'est extrait de votre documentaire, Pascal Guérin. Bonjour.
Bonjour.
Votre documentaire s'appelle « Tsunami, la menace planétaire ». J'avoue, une menace planétaire, oui, parce qu'il y en a d'autres. Malheureusement, on en parle souvent dans cette émission. Alors j'avoue qu'en visualisant votre film, hein, nous prenons conscience de l'ampleur de ce phénomène et c'est plutôt angoissant, on va le dire clairement. Vous avez travaillé pendant 2 ans sur ce film. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus durant votre tournage?
Alors ce qui m'a frappé le plus, je pense, c'est Palu. Palu en Indonésie, donc un site impacté par ces vagues destructrices fulgurantes. C'est un peu comme si on se retrouve dans un décor de guerre. C'est-à-dire que Palu en Indonésie, c'est une ville, on va dire, moyenne, avec des maisons, des rues qui ressemblent aux nôtres d'une certaine manière. Et puis, vous arrivez près des rivages et là, sur 300, 400 mètres, tout est dévasté. Alors l'événement lui-même, aux alentours de 18 heures, il y a eu un séisme assez important, de l'ordre de 7.1, qui est quand même vraiment conséquent. Et il y a eu ce tsunami qui s'est produit à peu près 2 minutes après le séisme. Et ça, c'est vraiment un cas d'école, parce que les scientifiques ont développé, j'ai envie de dire, une connaissance et à travers laquelle il y a tout un protocole de système d'alerte, mais sur des événements qui surviennent depuis la mer et qui mettent 30 minutes, voire des heures. Là, c'est 2 minutes.
Il y a eu beaucoup de victimes.
Il y a eu beaucoup de victimes. Alors, il y a eu des victimes liées au tsunami, mais il y a eu aussi des victimes qui sont liées à ce qu'on appelle de la liquéfaction aussi à terre, c'est-à-dire que c'était un séisme très, très rapide, fulgurant, qui a fait bouger une faille horizontale. Et ça a créé de la liquéfaction. Et c'est-à-dire qu'il y a 2-3 quartiers qui ont disparu. C'est-à-dire que les maisons sur terre et les rues et les gens se sont retrouvés engloutis par une sorte de sable mouvant lié au séisme.
Et Pascal Guérin, l'UNESCO a fait une carte des tsunamis, alors qui n'est pas exhaustive évidemment, mais qui donne un petit peu l'ampleur du phénomène.
En regardant cette carte, on prend conscience du phénomène planétaire. C'est-à-dire que cette carte de l'UNESCO, elle recense sur les 3000 dernières années des tsunamis historiques, c'est-à-dire des tsunamis connus. Et sur ces 3000 dernières années, figurent 1200 tsunamis, mais vraiment à travers toute la planète. Et donc, quand on regarde cette carte, on prend conscience du phénomène.
Bonjour Christophe Larocque.
Bonjour.
Alors vous êtes géologue au laboratoire GéoAzur du CNRS. Vous travaillez justement sur les tsunamis. Alors les tsunamis ont une ampleur qui peut être très inégale. Hein.
Oui, il faut bien distinguer effectivement les très gros tsunamis dont on vient de parler avec celui de Palu, celui qui s'est produit aussi en 2011 au Japon, ou celui qui s'est produit en 2004 à Sumatra, qui a été vraiment, avec le nombre de morts que vous rappeliez précédemment, qui a été vraiment un déclencheur à la fois dans la communauté scientifique et dans les administrations, parce que ça a été un événement énorme. Il faut voir que pour ces gros tsunamis, on va parler d'inondations dont la hauteur va pouvoir dépasser 20 mètres, voire 30 mètres dans certains cas, ce qui veut dire vraiment une élévation du niveau marin local, et qui, en fonction de la topographie des côtes, va pouvoir progresser à l'intérieur des terres sur éventuellement plusieurs kilomètres, voire une dizaine de kilomètres dans certains cas. Ça, c'est vraiment les monstres, hein, quelque part. Et puis, on a des tsunamis d'ampleur bien plus faible, qui peuvent aussi être dévastateurs, mais à un degré bien moindre, où on va avoir des vagues de quelques mètres à peine qui peuvent être produites.
Alors, Patrick Wassmer est avec nous aussi depuis l'Alsace. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe au laboratoire de géographie physique de l'université Paris 1 et consultant pour nombreuses universités. Alors, les tsunamis sont un phénomène relativement rare, hein, dans l'absolu, on disait 1200 en 3000 ans, mais très destructeur, comme le montrent plusieurs exemples dans l'histoire.
Oui, absolument. Je vais vous donner un exemple. C'est quelque chose qui s'est produit il y a très longtemps, sur les Canaries, par exemple. Un effondrement sectoriel du flanc de volcan du Teide, et cette masse énorme qui a glissé est entrée en mer du côté du Teide, et c'est remonté, c'est-à-dire que la vague qui a été produite est remontée à plus de 200 mètres, 250 mètres, sur les versants de l'ouest de l'île de Grande Canarie, qui est juste en face. On est là à 70 km, ce phénomène a eu lieu il y a 800 000 ans, quelque chose qui se produirait de cette façon-là aujourd'hui serait vraiment apocalyptique, quoi.
Oui, parce qu'en fait, l'inquiétude, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui vivent sur les côtes. C'est ça le problème.
Le risque, bien sûr, c'est toujours une conjonction entre un phénomène naturel qui va s'exprimer en libérant une énergie considérable et la présence humaine ou pas de présence humaine. On considère qu'il n'y a pas de risque à partir du moment où il n'y a pas d'infrastructure ou de personnes exposées à ce phénomène. Mais en construisant, bien sûr, des centres de vacances, en construisant des hôtels, en construisant des résidences le plus près de la mer, on augmente notre vulnérabilité et on augmente, de fait, le risque.
D'ailleurs, vous m'avez confié en préparant cette émission que vous, personnellement, vous ne dormez jamais au bord de la mer.
C'est vrai. C'est vrai, j'essaye toujours de trouver un endroit qui soit suffisamment éloigné, soit suffisamment éloigné, soit suffisamment en altitude pour pouvoir dormir sereinement.
Alors, quelles sont les causes connues de ces phénomènes? Je vous propose d'écouter les explications de Christopher Gomez, géomorphologue à l'université de Kobe au Japon. C'est un extrait de votre documentaire, Pascal Guérin.
Le dernier tsunami en date au Japon, en 2011, provoque l'accident nucléaire de Fukushima. Après un tremblement de terre de magnitude 9.1, la vague dévastatrice tue plus de 18 000 personnes.
Un tsunami n'a aucune cause météorologique. La première cause de tsunami, ce sont les tremblements de terre et les tremblements de terre en mer.
Les tsunamis sont dans leur grande majorité causés par des séismes sous-marins, eux-mêmes générés par l'activité tectonique de la planète. La surface de la croûte terrestre est morcelée en plusieurs grandes plaques que les mouvements du magma déplacent les unes contre les autres de quelques millimètres à quelques centimètres par an. Les plaques océaniques glissent sous les plaques continentales, constituant les zones de subduction. Les frottements entre les plaques peuvent provoquer la déformation de la plaque continentale. Une gigantesque énergie s'y accumule, jusqu'à ce que la tension lâche, générant un énorme séisme sous-marin.
Le tremblement de terre déplace d'un coup la totalité de l'eau. Donc si on est à 4 km de profondeur, on a 4000 mètres d'eau hauteur qui se déplace d'un coup, à la vitesse d'un avion de ligne. Très vite, en s'approchant des côtes, la vitesse se réduit. En se réduisant, la vague grossit. Et on se retrouve aux côtes avec des vagues de 20 à 30 mètres, comme on a pu le voir en 2011.
Christophe Larocque, dans cet extrait, Christopher Gomez parle des causes de tsunami liées au mouvement des plaques tectoniques. C'est la cause la plus courante, on va dire.
Oui, c'est la cause principale, en tout cas pour les très très gros tsunamis, ceux qui vont atteindre des centaines de kilomètres sur les côtes et avec des hauteurs de plusieurs dizaines de mètres. Ce sont les très très gros séismes. Hein. Les deux derniers très gros séismes que l'on a connus depuis les années 2000, c'est le Japon en deux, le gigantesque tsunami donc de Tohoku, un séisme avec une magnitude de 9. Donc là aussi, c'est un monstre. C'est un séisme monstrueux avec un déplacement du sol de plusieurs dizaines de mètres et c'est ce déplacement qui est communiqué à la masse d'eau, comme le disait mon collègue, qui va produire le tsunami. Et puis le deuxième très très gros séisme, c'est celui de Sumatra en 2004, qui a atteint lui aussi la magnitude 9. Alors fort heureusement, des séismes aussi puissants que ceux-là, il y en a très peu. Il se trouve que là, en une dizaine d'années, on en a eu deux successifs.
Alors on a tendance à l'oublier, hein, que le sol sous nos pieds bouge comme ça, avec ces plaques, c'est quelque chose dont on n'a pas du tout la notion au quotidien, en fait.
Non, on n'a pas cette notion-là au quotidien. Je dirais quelque part, tant mieux, parce qu'il faut quand même essayer de vivre tranquillement aussi. L'origine du tremblement de terre, c'est justement le fait que ça ne glisse pas en continu. Ça va glisser par à-coup, à certains moments. C'est-à-dire que du fait du mouvement des plaques tectoniques, on a de l'énergie qui s'accumule, un petit peu comme dans un élastique. Quand vous tirez sur l'élastique, en fait, vous emmagasinez de l'énergie dans l'élastique. Et puis, au moment où vous atteignez le seuil de résistance de l'élastique, il casse d'un coup. Ben, le tremblement de terre, c'est exactement ça. Donc on va aux différents endroits sur le globe où on a de l'activité tectonique, emmagasiner de l'énergie pendant plusieurs centaines d'années, plusieurs milliers d'années, et puis à un moment, ça va lâcher et ça va produire ces très gros tremblements de terre.
Alors Patrick Vesmer, quelles sont les autres causes de tsunami ?
Les autres causes de tsunami, ça peut être une éruption volcanique sur une île située dans l'océan, et à partir de là, on a des mécanismes qui correspondent à une vidange, si vous voulez, de la chambre magmatique qui se trouve sous le volcan. Et ça va générer un effondrement du volcan sur lui-même. Ça a été le cas notamment pour le Krakatoa en 1883 dans le détroit de la Sonde entre l'île de Java et l'île de Sumatra. Là aussi, l'importance du déplacement de la masse d'eau et la violence du phénomène va générer des vagues qui sont considérables. Sur l'événement du Krakatoa en 1883, les vagues faisaient une quarantaine de mètres de haut, entre 30 et 40 mètres de haut, et on a eu énormément de morts sur l'ensemble de toutes les côtes environnantes, hein, pas loin de 40 000 morts.
Alors, il y a aussi les effondrements de terrain, vous en parliez tout à l'heure à propos des Canaries, c'est-à-dire des faces de volcans pleines de poussière qui tombent dans la mer.
C'est-à-dire que, oui, c'est ça. C'est quand on a un volcan qui se construit, en se construisant, il augmente en altitude et il devient, au bout d'un moment, instable. Ses pentes sont très raides et il y a des mécanismes ensuite de... si vous voulez, régularisation de la pente, et ça se traduit par des secteurs entiers du volcan qui vont glisser et qui vont partir en mer quand on est sur des îles volcaniques. Et ça peut donner des... Ça repousse bien sûr la masse d'eau de façon très brutale, et ça va donner des vagues qui sont très focalisées, qui n'auront pas une puissance aussi importante que celle produite par des séismes, mais néanmoins, sur des distances courtes, on peut avoir des vagues considérables. On a eu ça, par exemple, sur le Fogo, sur le Cap Vert, les îles du Cap Vert, et l'effondrement sectoriel d'un des flancs du Fogo, qui était dirigé vers l'est, est parti sur une île en face, et on a des blocs qui ont été remontés à 170 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais des blocs énormes qui ont été prélevés au niveau de la côte, et remonter sur cette île qui est juste en face de l'île du Fogo. Donc c'est une puissance sur une distance relativement courte qui est considérable.
Dernière cause qui est plus rare, les météorites. Christophe Larocque, vous vouliez dire ?
Je veux bien rajouter un mot sur ce que vient de dire Patrick, parce qu'on a eu un très très bel exemple, bon malheureux parce qu'il y a eu deux morts, mais un très très bel exemple sur les côtes de méditerranéennes françaises de tsunami généré par un glissement en masse de roches. C'était en 1979, lors des travaux d'extension envisagés de l'aéroport de Nice. Et en octobre 1979, donc ces travaux qu'avaient conduits les entreprises de travaux publics qui faisaient leur travail là à l'époque, à empiéter sur la mer en accumulant du matériau, donc des millions de mètres cubes de roches, à un moment, pour des raisons un peu complexes sur le plan géotechnique, cet ensemble s'est effondré. Et ça a produit, effectivement, 10 minutes après, un tsunami avec une vague de plus de 2 mètres qui est arrivée sur les côtes d'Antibes. Donc très, très focalisée sur une zone de quelques centaines de mètres de large, mais avec une hauteur quand même de plus de 2 mètres qui a balayé les voitures et qui malheureusement avait à l'époque entraîné le décès d'une ou deux personnes de mémoire.
Voilà pour les causes de ces phénomènes hors normes que sont les tsunamis. Mais comment les anticiper? On en parle juste après une pause musicale en compagnie de Lutz, Big Waves.
Cresci a surfar numa big wave. Histórias para contar antes de cair na grave. Tsunamis de Bacari nessa big day. Eu estou a remar ao contrário dessa big wave. Cresci a surfar numa big wave. Histórias para contar antes de cair na grave. Tsunamis de Bacari nessa big day. Eu estou a remar ao contrário dessa big wave. Burro, vim na merda, não tô sozinho à toa. Tô a fazer pelo meu, eu sei que tô só assim na tona. Já tô com o teu dobro mesmo, só assim na boa. Subi com 3 passos, estás a correr maratona. Eu tropecei no fundo, ele tropeçou em mim. Eu nunca tive um mundo, mas já tive a ti. Nunca estar em segundo, só quero o first P. Eu tô espremendo o sumo, só para tu consumir. Vim do futuro, onde eu vi que eu vou vingar. E com o limite na altura, ultrapassou o sky. Borboleta, eu estou a voar até cansar. Travis Tuga, porque eu estou com efeito butterfly. Cresci a surfar numa big wave. Histórias para contar antes de cair na grave. Tsunamis de Bacari nessa big day. Eu estou a remar ao contrário dessa big wave. Cresci a surfar numa big wave. Histórias para contar antes de cair na grave. Tsunamis de Bacari nessa big day. Eu estou a remar ao contrário dessa big wave. Living life, estou balling. Com 16 eu estou sozinho. Com 16 não estou sozinho. Com titãs do meu lado, primo, não me consegues evitar. Tipo, estou quase em todo lado. Tipo, só me falta chegar lá no patamar de quem idolatrava isso. Um dia eu vou estar flexing, sempre ok. Eu sei que a vida me vai correr bem. A guita paga tudo everyday. Avisa nesse teu rapper é nóis. Minha vida toda vira ok, é gay. No duro tive que mudar a line. Tudo que eu tenho já nasci sem. Espero nunca mais sentir a pain. Cresci a surfar numa big wave. Histórias para contar antes de cair na grave. Tsunamis de Bacari nessa big day. Eu estou a remar ao contrário dessa big wave. Cresci a surfar numa big wave. Histórias para contar antes de cair na grave. Tsunamis de Bacari nessa big day. Eu estou a remar ao contrário dessa big wave.
Big Waves, Lutz, dans C'est pas du vent sur RFI.
C'est pas du vent.
Quel mur d'eau, quel vent, quel tonnerre, quel horrible tremblement de terre, quel bruit effrayant de la mer, et quel hurlement de tout un grand peuple.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Et ce grand peuple qui hurle, ce sont les Napolitains qui sont submergés par un tsunami lié au volcan Stromboli qui se trouve à 200 km au large de Naples. C'est un extrait de votre documentaire, Pascal Guérin. Tsunami, une menace planétaire. Alors que s'est-il passé à Naples, en quelques mots?
Alors en quelques mots, on est au XIVe siècle et le poète italien Pétrarque est là. Durant la nuit, il entend un bruit, un hurlement, et puis il ressent aussi, j'ai envie de dire, des secousses, et il descend voir dans le port. Le port de Naples est totalement dévasté, il y a des centaines de morts. Et aujourd'hui, un volcanologue, Mauro Rossi, a relu ce texte et a compris que c'était un tsunami.
Et l'inquiétude, c'est que le volcan, enfin cette face du volcan Stromboli, aujourd'hui, est autant chargée de poussière qu'à cette période-là.
Exactement. Aujourd'hui, les conclusions de Mauro Rossi et de ses collègues, on va dire, italiens, c'est que le Stromboli a une pente très très raide, la Sierra del Fuego, et cette pente se charge continuellement de matériaux volcaniques, et elle serait autant chargée qu'au XIVe siècle. Donc le Stromboli, qui est un volcan actif en permanence, a déjà provoqué des petites tsunamis, et notamment récemment. Et selon Mauro Rossi, toute cette pente peut se décharger, ce qu'évoquait Patrick Vasmer précédemment.
Au Cap Vert.
Voilà, au Cap Vert, peut se décharger dans la Méditerranée et générer un tsunami vraiment conséquent qui, 30 minutes plus tard, atteindrait toute la baie de Naples. Et il faut juste rappeler que Naples, c'est un métro, c'est une ville, c'est 1 million d'habitants, c'est des embouteillages, c'est un port important, industriel, touristique, etc. Et personne n'est au courant.
Personne n'est au courant. Christophe Larocque, quels sont les lieux les plus menacés par les tsunamis aujourd'hui ?
Alors les lieux les plus menacés sont évidemment en relation avec les zones où se produisent ces très grands séismes. Donc essentiellement les grandes zones qu'on dit de subduction dans le langage géologique. On va trouver ces zones essentiellement sur le pourtour Pacifique et dans l'océan Indien pour les zones qui produisent vraiment des très très gros séismes. Donc si on regarde la carte des tsunamis actuels, ceux qui se sont produits dans les 50 dernières années, les très gros, c'est là qu'on les trouve. Si on regarde la carte des tsunamis historiques, donc on va remonter avec les récits historiques jusqu'au 15e, 14e, 10e siècle suivant les cas, c'est aussi là qu'on va trouver vraiment les très très gros événements. Malgré tout, il n'y a pas que ces zones-là, on connaît aussi des tsunamis importants en Méditerranée. Alors en particulier, il y en a un très gros qui est relativement bien documenté par les études historiques en 365 après Jésus-Christ, donc qui est un tsunami qui a parcouru l'ensemble de la Méditerranée, en particulier noyé la zone d'Alexandrie en Égypte. Il s'est produit à partir d'un gros séisme qui a eu lieu en Crète, que les scientifiques sont en train d'essayer de caractériser à l'heure actuelle et qu'on arrive de mieux en mieux à comprendre. On a des tsunamis aussi relativement importants qui se sont produits dans l'océan Atlantique, essentiellement originaires des Antilles en 1843, en particulier, et puis en 1755 à Lisbonne, donc là côté européen, on a eu là aussi un fort séisme avec un tsunami important.
Oui, qui est allé jusqu'à affecter les côtes marocaines.
Oui, affecter les côtes marocaines, même produire de la littérature, puisque ça figure dans le Candide de Voltaire, il raconte au cours de son voyage les conséquences de ce tsunami.
Et il y a aussi des risques dans le sud de la France, entre Nice et Gênes.
Oui, alors dans le laboratoire
avec 2 millions d'habitants
où je travaille, on a comme un des éléments moteurs de nos travaux, c'est la caractérisation de l'aléa de séisme. Dans le sud-est de la France, il y en a beaucoup. Et depuis quelques années, on s'est intéressé aussi à la question du tsunami parce qu'on s'est rendu compte que le séisme le plus important qui s'est produit dans la zone en 1887 ne pouvait être caractérisé. On ne dispose pas de mesures sur ce séisme à l'époque. Par contre, il avait produit un petit tsunami, une vague de l'ordre de 2 mètres au maximum, répartie entre Nice et Gênes. Et on a eu la chance de bénéficier d'un enregistrement marégraphique à l'époque dans le port de Gênes, qui nous a permis de travailler sur les caractéristiques du tsunami et du séisme. Et on s'est rendu compte, effectivement, que depuis 1887, les infrastructures sur la côte Ligure, entre Nice et Gênes, 2 millions d'habitants, une masse de touristes qui vient régulièrement à la saison dans cette zone-là, la vulnérabilité avait considérablement augmenté. Donc on s'est beaucoup intéressé à l'éventualité actuelle d'un tsunami comme celui-là pour voir les conséquences que ça pourrait avoir.
Et vous avez retrouvé les failles et l'éventualité est plus que probable.
Alors, on a effectivement pu caractériser les failles qui avaient produit le séisme de 1887. Ce sont des failles qui sont actives, tous les éléments le prouvent, en particulier le séisme qu'elles ont généré au 19e siècle. Et on sait qu'une faille qui a produit un séisme il y a quelques centaines d'années va reproduire un séisme dans les années prochaines, quand on n'en sait rien. Ça peut être dans 1000 ans, ça peut être dans 5000 ans, dans plus, on ne peut pas répondre à cette question.
Et là, c'est comme à Naples, les habitants ne sont pas au courant. Alors, comment comprendre les causes de ces phénomènes? Eh bien, il y a aussi la recherche à travers les sédiments. C'est le travail de Nazli Ismail, géophysicien à l'université de Siakwala en Indonésie, que vous avez rencontré, Pascal Guérin, pour votre documentaire.
Ici, le tsunami a atteint 30 mètres de haut, jusqu'au sommet de la colline, là-bas. Les gens se sont précipités vers les montagnes, mais très peu ont survécu.
Nazli Ismail a arpenté la côte pour étudier les stigmates laissés par le tsunami. C'est à 30 km au sud de Banda Aceh qu'il a fait une découverte exceptionnelle.
Après le tsunami de 2004, cette grotte était pleine de débris. Deux morceaux de bois. Cette grotte a une architecture très particulière. Elle a la forme d'un L. Et son entrée est parallèle à la côte. Ainsi, chaque fois que l'eau d'un tsunami vient submerger cette grotte, elle est retenue à l'intérieur.
Nazli Ismail a alors eu une intuition. Si cette grotte a piégé la matière charriée par le tsunami de 2004, elle pourrait aussi garder la mémoire d'autres cataclysmes passés. En creusant, le chercheur découvre une particularité provenant des chauves-souris qui colonisent cette grotte depuis des millénaires.
Chaque tsunami est recouvert par une couche de guano. Les couches de guano, ce sont les éléments noirs, ici.
Au fil des années, les couches de guano ou excréments de chauve-souris se déposent entre chaque tsunami et finissent par se fossiliser. Elles marquent une frontière nette qui permet de délimiter chaque événement.
Une couche de tsunami, puis une couche de guano. Une couche de tsunami et encore du guano, puis un tsunami, puis encore du guano, tsunami, puis guano, et le tsunami de 2004.
Au total, 12 dépôts de tsunami constituent cette superposition de sédiments. Avec l'aide de chercheurs de l'Earth Observatory de Singapour, Nazli Ismail a pu dater au carbone 14 ces 12 dépôts et raconter l'histoire des tsunamis de cette région sur plus de 10 000 ans. Le dépôt supérieur correspond au tsunami de 2004. L'événement suivant date d'il y a environ 2 900 ans. Puis, 4 tsunamis se sont produits à 25 ans d'intervalle, il y a environ 3 300 ans. Le plus ancien date d'environ 7 500 ans.
Patrick Vesmer, vous aussi, vous êtes un chasseur de tsunamis. Vous m'avez expliqué que vous travaillez comme une taupe, en fait, de la mer à la terre, en étudiant les priorités magnétiques des sables. Alors, expliquez-nous ça.
Alors oui, c'est vrai qu'on cherche des dépôts. L'idée, si vous voulez, c'est d'essayer de reconstituer le long des littoraux les événements tsunamis qui ont pu avoir lieu par le passé. La seule façon de faire ce genre de travail, c'est de creuser et de regarder dans les dépôts littoraux les accumulations de dépôts venant de la mer, c'est-à-dire de sable marin avec des coquilles, avec des coraux, avec des éléments plus ou moins grossiers. Et ça correspond à ce qu'on appelle la signature ou l'enregistrement sédimentaire d'un tsunami. On parle de signature d'un tsunami. Ça, on peut trouver ça le long des littoraux, sur les côtes basses, où la mer est rentrée assez loin dans les terres, et si les dépôts sont bien préservés. D'abord, la première chose qu'il faut qu'on ait pour que ça puisse fonctionner, c'est qu'on ait des grandes plages de sable avec un stock de sédiments disponibles au moment où arrive le tsunami, qui va prélever ce sable et qui ensuite va l'étaler vers l'intérieur des terres. Et en travaillant sur ces dépôts, en s'éloignant du rivage, on va réussir à retrouver des dépôts de tsunami dont on va pouvoir caractériser la direction de la première vague qui pointe souvent l'origine du tsunami et puis ensuite le nombre de vagues qui ont atteint cet endroit-là. Et tout ça, on le fait en se basant beaucoup sur les propriétés magnétiques des sables qui nous permettent de reconstituer les directions d'écoulement au moment où le dépôt s'est fait.
Et alors, qu'est-ce que vous avez reconstitué comme tsunami à partir de ces propriétés magnétiques des sables jusqu'alors ?
Alors, une étude qu'on a faite dans le sud du détroit de la Sonde pour essayer de retrouver les traces. L'idée, si vous voulez, c'était de retrouver des traces et à la fois des enregistrements des tsunamis qui ont été générés par l'éruption du Krakatoa et à la fois les tsunamis qui auraient pu être générés le long de la faille au sud de cette zone qui se trouve entre Java et Sumatra. On est là sur une espèce de langue de terre, un isthme, et d'un côté, on a le détroit de la Sonde et de l'autre côté, on a l'océan Indien. Et cette langue de terre est pas très élevée, elle monte à 17 mètres au-dessus du niveau de la mer, elle fait 2 km de large, et là-dessus, on a fait des trous régulièrement, et on a décrit les dépôts, et on a 3 mètres de dépôts, et on a pu, avec cette technique qui étudie ce qu'on appelle l'anisotropie de la susceptibilité magnétique des sédiments, c'est donc ces propriétés magnétiques qui nous intéressent, on a réussi à reconstituer l'enregistrement des 4 tsunamis qui ont été générés pendant l'éruption du Krakatoa en 1883.
Et alors, au-delà du plaisir de la recherche, l'idée en fait de ces recherches, c'est pour prédire l'avenir.
L'idée, c'est ça, c'est de voir comment les tsunamis se comportent, de voir comment jusqu'où ils rentrent à l'intérieur des terres, et de voir justement combien il y en a eu par le passé. Alors là, en l'occurrence, on en a mis en évidence 4 qui ont eu lieu exactement pendant la même demi-journée du 27 août 1883. Mais à certains endroits, on en trouve d'autres. Sur la pointe nord de Sumatra, sous le tsunami de 2004, on a un tsunami qui est daté de 4200 ans. Un gros tsunami aussi. Voilà, avec un dépôt qui fait presque 1 mètre d'épaisseur.
Christophe Larocque, vous me disiez que ce genre de travaux, on en voit de plus en plus maintenant.
Oui, disons que les questions touchant au tsunami ont connu vraiment une grande amplification dans le travail des scientifiques depuis 2004. C'est vrai qu'avant 2004, essentiellement, je dirais, les physiciens hydrologues travaillaient sur la question des tsunamis, la propagation des vagues en haute mer, le déferlement sur le littoral, les sismes s'intéressaient aux tsunamis pour la reconstitution des tremblements de terre. Et puis, quand les grandes questions sont arrivées en 2004 sur quand même qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger les populations de cette calamité, il faut essayer de mieux la comprendre. Et là, tout de suite est arrivée la question, mais les tsunamis dans le temps, comment ils se répartissent ? Est-ce qu'on a des cascades de tsunamis comme on connaît des cascades de séismes ? Est-ce qu'on a un espacement régulier dans le temps ? Et là, l'observation actuelle ne suffit plus pour apporter des réponses à ces questions. Il faut aller voir dans les dépôts géologiques, remonter sur 5000 ans, 10000 ans, 20000 ans, 50000 ans, plus, comme le fait Patrick Wassmer, par exemple.
Alors, comment protéger justement les populations ? On en parle après une pause musicale en compagnie de Timber. Timber, run from me.
Run from me, darling. Run, my good wife. Run from me, baby. You better run for your life. And each time I see you,
I contemplate what I love most of all, your swinging gaze run from me, darling. Run, my good wife. Run from me, darling. You better run for your life.
Timber, Timber, run from me, non, c'est pas du vent sur RFI.
Est-ce que c'est toi par hasard qui fabrique les tempêtes, les typhons, les tornades et les cyclones? Est-ce que c'est toi qui les lance sur la mer quand ça te fait plaisir?
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Et nous parlons des tsunamis aujourd'hui dans C'est pas du vent. Selon l'UNESCO, 1200 tsunamis auraient déferlé sur les côtes depuis 3000 ans. Des côtes où la population est de plus en plus dense. Par exemple, au Japon, qui est un pays qui vit en permanence sous la menace des tsunamis et qui, du coup, a développé des systèmes d'alerte très sophistiqués.
Séisme, glissement de failles, éruption volcanique. Tous les phénomènes telluriques peuvent déclencher des tsunamis. Les recherches menées ces 15 dernières années permettent de mieux comprendre ces phénomènes, mais également de perfectionner les systèmes d'alerte pour les adapter à chaque zone à risque. C'est au Japon, pays d'avant-garde dans la science des tsunamis, que la technologie est la plus avancée. Ici, les chercheurs savent exactement d'où viendra le prochain cataclysme. Ces images ne sont pas celles d'un film catastrophe destiné au cinéma, mais un spot des autorités japonaises diffusé en mars 2018 pour préparer la population à un tsunami. Selon les scientifiques, il aurait 80% de chances de se produire dans les 30 années à venir. Avec pédagogie, ce film explique les comportements à adopter. Et avec fatalisme, il annonce l'ampleur probable du désastre. 350 000 victimes, et des dégâts tels qu'ils affecteraient l'économie japonaise pour 20 ans. Ces modélisations ont permis à l'Université de Kyoto de créer un plan d'évacuation interactif. En cas d'alerte, l'application pour téléphone portable montre la progression des vagues et désigne les zones protégées les plus proches.
On a des messages qui arrivent sur nos téléphones portables, sur Internet. Quand vous regardez la télévision, vous avez ces messages qui arrivent vers vous aussi. Et ils vous disent ce qu'il faut faire. Où est-ce que vous devez vous sauver pour être en sécurité ?
Ce que nous venons d'entendre, Pascal Guérin, est un extrait de votre documentaire « Tsunami, une menace planétaire ». Le Japon, et notamment sa côte ouest, semble vraiment en sursis.
En fait, ce qui est évoqué dans le documentaire, c'est une faille gigantesque d'à peu près 900 km de long, la Nankai. Et cette faille fait face aux trois grandes villes économiques du Japon, donc Tokyo, Nagoya, Osaka. Les Japonais attendent, j'ai envie de dire, d'une minute à l'autre, ou au maximum 30 ans, enfin après, ça sera peut-être 50 ans, ça sera peut-être après-demain, un tsunami de l'ordre des tsunamis évoqués précédemment par Christophe Larocque, d'au moins 9 sur l'échelle de Richter, donc on va dire un monstre. Et ils attendent donc des vagues de 20 à 30 mètres en 5 minutes, sur les premières côtes. Et le cas d'Osaka qui est évoqué dans le film, c'est que comme c'est une baie, ça sera au bout d'une trentaine de minutes des vagues de 5 à 6 mètres. Le problème, c'est que la ville d'Osaka est construite en partie sous le niveau de la mer. Donc elle est protégée par des remparts et elle est construite aussi sur des remblais. Donc ce qu'évoque Christopher Gomez dans le documentaire, c'est que le séisme risque d'être tellement conséquent que ça risque de fragiliser les infrastructures censées protéger des vagues du tsunami.
Mais ce qui est fou, c'est que cette tragédie, elle est connue, elle est annoncée. Enfin, alors, faut vivre avec ça.
C'est ça, mais
les
Japonais.
Et du coup, on a l'impression dans votre film qu'il y a une espèce de compensation par la technologie.
Exactement. C'est que les Japonais ont l'habitude, d'une certaine manière, de vivre avec ces risques importants, que ce soit les ouragans, donc on va dire des risques météorologiques, mais aussi les séismes, les volcans et les tsunamis. Donc, c'est ce pays d'ultramodernité a développé des outils incroyables, on va dire, pour détecter au plus vite, au plus tôt, la manifestation, par exemple, d'un tsunami avec le système DONET, donc de capteurs sous-marins placés directement sur la faille. Donc dès que la faille bougera de manière conséquente, les systèmes d'alerte pourront être mis en place. Après, c'est comment les gens réagiront, c'est-à-dire que...
Oui, parce que l'appli sur le téléphone, c'est bien, mais enfin, il faut d'abord être capable de la lire, il faut qu'elle soit activée, il faut que le téléphone marche, que le réseau fonctionne, enfin bon, si, quoi.
Exactement, c'est-à-dire qu'en fonction des conséquences du séisme, comment ces infrastructures seront en place, opérationnelles ou pas, et puis, j'ai envie de dire, Osaka, c'est une ville moderne, c'est-à-dire que où seront les gens, c'est-à-dire, si on est dans le métro, si on est... Enfin, c'est assez incroyable.
Christophe Larocque, en fait, cette histoire de tsunami, c'est une question d'ampleur, de temps par rapport à la vague qui arrive. Combien de temps on a pour s'y préparer? Quelle est la hauteur de la vague et tout ça. Alors, on a des capteurs un peu partout dans les océans du monde, mais c'est
oui,
vrai
alors
que c'est...
Depuis une trentaine d'années, on a développé tout un ensemble de technologies qui permettent de détecter la propagation des tsunamis en haute mer. Alors, il faut savoir qu'en haute mer, une vague de tsunami, c'est une très longue vague. Elle va faire plusieurs centaines de kilomètres. Par contre, elle n'est pas très haute. Elle a quelques dizaines de centimètres, voire un mètre, voire deux mètres au maximum de hauteur. Elle est noyée dans la houle. Malgré tout, on a des systèmes qui sont capables de détecter ce type de vague qui se propage très très vite au travers de l'océan profond. Hein. Ce sont des vitesses de l'ordre de 900 km/h. Donc c'est effectivement une propagation très rapide. Mais quand un tsunami est initié par un séisme au Chili, par exemple, le temps qu'il arrive au Japon, on a une bonne dizaine d'heures. Donc à partir du moment où il est détecté assez tôt, on peut effectivement donner une alerte, préparer la population si on estime que la vague va avoir une certaine importance sur tel ou tel lieu. Ça, il n'y a pas de problème. Les problèmes qui se posent sont lorsque la source des tsunamis est très proche de la côte et où on va disposer de 10 minutes, 20 minutes maximum pour réagir. Là, le système d'alerte, pour le mettre en marche, quelle que soit l'efficacité technique de tous les centres d'alerte, il lui faut déjà au moins 3 ou 4 minutes. Et ensuite, ça laisse très peu de temps pour propager l'alerte et donner le temps nécessaire aux gens pour réagir. Donc, il faut que les gens soient capables de réagir d'eux-mêmes sans trop compter sur la technologie dans ce cas-là.
Alors Patrick Wassmer, c'est là où finalement le gros enjeu, c'est d'éduquer la population ?
Oui, tout à fait. Si on considère le risque comme étant le résultat d'un phénomène naturel et puis de la présence des hommes, on peut agir sur deux choses. On peut agir sur le phénomène lui-même, comme le font les Japonais dans certaines baies où ils ont mis des digues absolument monumentales pour éviter que l'eau ne pénètre dans les terres. Là, il y a des digues qui font 15 mètres de haut. Ça, c'est une chose, mais on n'est pas sûr que ça tienne. Et lorsque ça franchit ces digues, et ça a été le cas en 2011, ce sont des cascades qui descendent de l'autre côté des murs et qui sont deux fois plus dévastatrices que si on n'avait pas mis de digues du tout. Ça, c'est un point. La deuxième chose, c'est la présence de l'homme. Et donc, l'homme, pour éviter qu'il soit exposé trop fortement, eh bien, il faut éduquer la population. Que la population sache ce que c'est qu'un tsunami, sache comment réagir face à un tsunami, sache où aller. Et ça, c'est une éducation qui est extrêmement importante. Je donnerai juste un exemple qui m'a frappé, moi. C'est 5 ans après le tsunami de 2004 en Indonésie. On est allé à Banda Aceh pour faire un suivi un petit peu du travail qu'on avait entrepris en 2005. Et du coup, on a demandé à la population, si vous êtes là près de la mer, si maintenant la terre se mettait à trembler, qu'est-ce que vous feriez? Les gens nous disent, on va sortir de notre maison, on veut quand même pas se retrouver sous le toit qui s'effondre. Et on dit, mais après, on attend que les secours arrivent, qu'on nous dise quoi faire. Je dis, mais vous vous rappelez qu'il y a 5 ans, il y a eu un tsunami? Alors les gens, ils rigolent et ils disent, oui, mais s'il y a un tsunami qui arrive, bien sûr, on va courir. Et quand vous leur demandez, mais vous allez courir où? On ne sait pas, on va suivre les gens. Et en fait, ce n'est pas juste une personne qui vous dit ça, c'est beaucoup de personnes qui ont le même type de réponse. Ça veut simplement dire que personne n'a pensé à donner à ces personnes qui vivent au bord de la mer une éducation sur le phénomène et surtout sur le où aller dans le cas d'un tsunami imminent. Alors que ça serait extrêmement simple de simplement dire aux gens, vous habitez dans ce village-là, l'endroit le plus haut, le plus proche et le plus haut qui vous mettrait à l'abri des tsunamis, c'est à cet endroit-là. Et avec les gens, régulièrement, chaque mois, on entretient, déjà on va tracer un chemin pour monter jusqu'à là-haut, on a planifié une zone qui puisse accueillir de la population, et les gens vont considérer que c'est leur travail, et ils vont bien sûr adopter cet endroit. Et le jour où il y a un phénomène, eh bien, ils sauront où aller, ils y courront sans hésiter parce qu'ils l'auront entretenu régulièrement, etc. Et ça marche très très bien. Ça a été le cas sur le tsunami de 2006 en Indonésie, au centre de Java, où une équipe d'étudiants de l'Université de Paris 1 avait fait un petit film de sensibilisation de la population. Ils avaient projeté sur une des localités en bord de mer. Et le jour où il y a eu ce séisme et ce tsunami, dans les communautés qui n'avaient pas vu le film, il y a eu pas loin de 500 morts, alors qu'à l'endroit où les gens avaient vu le film, ils avaient même participé à l'époque à réaliser ce petit film en faisant une évacuation simulée, eh bien, tout le monde savait ce qu'il fallait faire. Donc, je pense c'est un moyen de diminuer le risque fortement.
Encore faut-il que l'homme réalise dans son ensemble qu'il vit avec le risque, notamment quand on vit près des côtes. Et ça, j'avoue que c'est pas gagné. On le voit de plus en plus de par le monde. Et malheureusement, il faut se préparer à quelques catastrophes. On l'a bien compris avec vous, messieurs. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Pascal Guérin, je rappelle le titre de votre documentaire, Tsunami, une menace planétaire. Pour comprendre ce phénomène, vous pouvez aussi aller sur le site de la Commission océanographique de l'UNESCO qui a mis en ligne des documents pédagogiques. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, bien sûr, pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.
C'est samedi sur RFI.